Bonjour Hans-de-Marie Angoupe.
Bonjour.
Comment en est-on arrivé à un tel niveau de tension?
Je crois que cela a quelque chose à voir avec le degré de mauvaise gestion de la crise de la part du gouvernement en place, qui peut-être a sous-estimé ou mésestimé le degré de frustration des populations des deux régions anglophones, non seulement vis-à-vis de la gouvernance politique, mais peut-être aussi de ce qu'ils perçoivent comme discrimination. Et donc, la stratégie habituelle qui consiste à utiliser bâtons et carottes face aux manifestations ou aux réclamations des associations de la société civile, en l'occurrence ici les enseignants et les avocats, n'a pas marché et donc a conduit à des bavures policières et au niveau de raidissement de tensions politiques que l'on observe.
Alors le gouvernement accuse les protestataires d'être passés de revendications sociales, celles des avocats et des enseignants, comme vous le disiez, à des revendications politiques. Est-ce que la contestation a été instrumentalisée par des partis ou par d'autres mouvements ?
Le point de vue du gouvernement a des éléments de vérité. Mais je crois aussi que ce que le gouvernement sous-estime, c'est combien les rancœurs sociales, le sentiment de marginalisation est fort ancré dans les sociétés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais.
Vous parlez de frustration des populations dans ces zones anglophones. Comment elles se manifestent concrètement?
Cela peut se traduire par certaines récriminations des populations disant que elles sont sous-représentées au niveau de certaines instances et non que des postes ministériels qui valent des postes strapontins. Les populations du Nord et du Sud-Ouest estiment que les zones anglophones sont moins développées que les zones francophones en matière d'infrastructures routières ou même encore d'infrastructures sanitaires, de santé. Entre Yaoundé et Bamenda, la capitale du Nord-Ouest, il n'y a pas de route viable. On peut multiplier les exemples ainsi à l'infini.
Pour les régions anglophones, en tout cas, le seul moyen de remédier à ces problèmes aujourd'hui, c'est le retour au fédéralisme. En tout cas, c'est ce que dit l'opposition, c'est ce que disent les protestataires. Le gouvernement, lui, refuse même d'en parler. Pourquoi est-ce que le sujet est aussi tabou?
C'est parce que, disons, la politique camerounaise a été construite autour du mythe de l'unification avec le président de la République qui se présenterait comme père de la nation, garant de cette nation-là. La haute administration camerounaise et même le gouvernement est réticente vis-à-vis de l'idée du fédéralisme parce que ce serait non seulement déposséder l'appareil central camerounais des espaces et des pans de pouvoir, y compris les espaces et les pans de rente et de clientélisme, ce serait aussi permettre qu'il y ait possiblement de vraies expériences démocratiques à des échelles locales, lesquelles pourraient plus tard avoir un écho dans la manière dont les citoyens pourraient se positionner vis-à-vis à la longévité au pouvoir du président actuel.
Ça veut dire qu'il ne faut attendre aucune proposition en ce sens, même de décentralisation de la part du gouvernement?
Là encore, je crois qu'une des concessions de fond qu'aurait pu faire le gouvernement, on aurait pu penser à une mise en place véritable d'une décentralisation approfondie. Je crains que le gouvernement camerounais soit n'ira pas sur ce terrain, soit ira, mais avec des intentions de plus tard torpiller le processus de décentralisation.
On le voit, le problème est très très politique, mais aujourd'hui, les protestataires dans les zones anglophones jouent aussi sur le terrain économique. Le consortium pour la société civile anglophone, qui a été interdit par les autorités, appelle même les entreprises à ne plus payer de taxes à Yaoundé ou à Douala. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce message? Est-ce que c'est un coup de bluff selon vous?
En effet, le consortium monte les enchères.
Mais dans un État unifié, il semble logique que les entreprises versent des taxes et versent leurs impôts à l'État central.
Tout à fait. Il y a un risque clair que là, ils fournissent un prétexte légal à l'État camerounais et au gouvernement pour justifier au plan national et international cette fois-ci une approche plus dure en disant « Voyez à quel degré d'extrémisme ceux qui prétendent être ouverts au dialogue sont capables d'arriver. »
Alors justement, vous parlez de postures, de mots que pourrait utiliser le gouvernement. Comme souvent dans ce genre de situation, on assiste aussi un peu à une guerre de communication. Est-ce qu'on sait en fait ce que ce mouvement de contestation représente aujourd'hui?
Un indicateur empirique dont nul ne peut douter, c'est quand même que leur mouvement Ville-Morte, pour l'instant, est suivi. Bien qu'il y ait des accusations comme quoi certains membres du consortium intimideraient ceux de la population qui ne veulent pas suivre ce mouvement. Je pense quand même que s'ils sont parvenus dans deux régions qui représentent près de 6 millions d'habitants à faire suivre leur mouvement pendant près d'un mois, malgré toutes les mesures de contrainte et de dissuasion du gouvernement, c'est quand même que quelque part, il y a une base certaine.
Merci, Anse de Marie-Angoupe.